marche du monde.
Contre la vermine démocrate, demandez l'action française, mesdemoiselles.
Sale fasciste.
Vous vous foutrez en tôle, vous et toute votre clique de juifs et de métèques. Perdons pas de temps, le maréchal parle à la radio dans une heure. À bas la République et vive la France.
C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
La France est morte.
Non. On peut pas se coucher devant les boches. Et on va se battre. Je te jure qu'on va se battre.
Mais la guerre est une chose sérieuse, Danny.
Les gars, il y a un général français à Londres qui a fait un discours incroyable.
Je vais donc prendre les noms des volontaires qui acceptent de s'engager sous les ordres du général de Gaulle.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à Daniel Cordier, ancien secrétaire de Jean Moulin, figure de la résistance française et compagnon de la libération. Daniel Cordier s'en est allé le 20 novembre dernier à l'âge de 100 ans et son destin français a été honoré par le président de la République dans un hommage national à l'hôtel des Invalides. Drôle, élégant, libre penseur, Daniel Cordier est devenu marchand d'art sans jamais faillir à son engagement aux côtés du général de Gaulle et de la France libre. Pour ses 94 ans, il recevait la marche du monde chez lui, à Cannes, pour un portrait sonore en avant-première des rendez-vous de l'histoire de Blois. Un portrait conjugué à son biopic cinématographique. Bonjour, Daniel Bonjour. Cordier.
Bonjour, madame.
Les rebelles, c'est le thème des rendez-vous de l'histoire cette année. Daniel Cordier, à 94 ans, est-ce que vous êtes encore et toujours un rebelle?
Ah oui. Ah, ça sans aucun doute. C'est un rebelle parce que, bon, j'avais peut-être beaucoup d'autres perspectives, projets, ambitions, etc. Mais j'en ai un auquel j'ai été fidèle toute ma vie, et encore maintenant, c'est la liberté. Je suis pour la liberté, et aujourd'hui encore, je ne sais pas avec quel moyen, mais s'il fallait me battre, ah oui. Il y a une espèce de mobilisation des restes de ce que je suis. Dès qu'il s'agit de la liberté, je suis volontaire.
Pour quelles raisons avez-vous accepté de témoigner à Blois et quel sens est-ce que vous donnez à la transmission de votre expérience de résistant?
Oui, là, il faut que je vous dise un mot du passé. C'est que, au fond, je suis un enfant de la guerre de 14. Je suis né en 1920. Et toute ma jeunesse, tout ce que j'ai entendu, toutes les histoires et même la vision de mon enfance, ce sont d'abord les femmes en grand deuil. Vous n'avez pas une idée aujourd'hui de ce qu'est le grand deuil. Parce que les femmes de tous les combattants qui étaient morts, de tous les soldats qui étaient morts, étaient en grand deuil. C'est-à-dire qu'elles étaient de la tête aux pieds en noir et elles avaient une espèce de voile en tulle noire devant les yeux. C'était des... Voilà, c'était ça, et ça c'est drôle parce que j'ai jamais vu quelqu'un en parler. Mais c'est l'enfance de tous les gens de ma génération. C'est cette image et les conversations. Il y a deux conversations qui sont le fond de mon alphabet, de tout ce que j'ai connu, c'est la guerre et les avocats à cause du divorce de mes parents quand j'avais 4 ans. Et j'habitais avec ma grand-mère après le divorce de mes parents. Et lorsque j'avais 5-6 ans, je lui ai dit, mais à quel âge je vais partir pour la guerre? Et ma grand-mère m'a dit, mais ne dis pas des horreurs comme ça. Et je lui ai dit, mais tous les hommes vont faire la guerre et je veux faire la guerre. Elle m'a dit, bon, au lit. Voilà le commencement de ma vie.
Vous êtes un passionné, Daniel Cordier. Vous êtes un fervent. Et vous êtes entré très très jeune en politique.
Merci.
Alors vous qui êtes devenu un grand résistant, vous qui êtes connu pour être un homme de gauche, un libre penseur. C'est pourtant à l'extrême droite que tout jeune, vous êtes entré en politique. Alors évidemment, c'est extrêmement surprenant. Expliquez-nous ça. Qu'est-ce qui fait que lorsque vous avez 14-15 ans, vous êtes subjugué par Charles Maurras et vous croyez en ce discours patriotique, nationaliste, anti-républicain?
Non, mais il y a quelqu'un dans ma vie, c'est mon beau-père. Mon beau-père était le fils d'un Cordier qui était journaliste, qui était d'extrême droite, qui avait fondé à Bordeaux un journal avec le marquis de Lursalus, enfin, etc., etc.
Daniel Cordier, qu'est-ce qui vous plaît justement dans ces idées anti-républicaines? Pourquoi vous adhérez à cette vision politique?
J'ai adhéré parce que mon beau-père, que j'admirais, parce qu'il était ancien combattant, on avait cru qu'il mourrait après la guerre, tout ça, il s'était rétabli, il avait fait des courses automobiles, et il avait écrit des pièces de théâtre, et ça, c'était pour moi un roman. Et puis, bon, il était très élégant, mais ça ne se voyait pas. C'était un mythe pour moi. Et donc, je me suis retrouvé royaliste, c'est-à-dire que je lisais l'Action française, c'était pour Maurras, pour Léon Daudet, et puis après, je suis devenu Camelot du Roi, et quand j'ai eu 17 ans, j'ai fondé le Cercle Charles Maurras à Bordeaux. J'étais Action française, j'étais... Et quand je suis parti, j'étais toujours...
Ah oui, justement, pour que les jeunes aujourd'hui, qui ont l'âge que vous aviez à l'époque, comprennent bien, être Action française, qu'est-ce que ça voulait dire?
Ah, ben, le mythe de l'Action française, c'était le Camelot du Roi. C'était un journal qui s'était fondé en 1898, je crois, et c'était des activistes, des gens qui avaient entre 18 et 22 ans et qui se bagarraient à coups de matraque au Quartier Latin, ils organisaient des réunions où ils allaient saboter les réunions des communistes. Enfin, les Camelots du Roi, c'était l'Action, et ça, c'était le mythe de mon enfance.
Qu'est-ce que vous souhaitez pour la France à ce moment-là?
Ah ben, le roi. Le retour du roi, ah ben ça c'est évident. Et alors on organisait des réunions, et Maurras venait de temps en temps à Bordeaux. Et alors au fond, mes études à partir de la quatrième, c'était n'importe quoi, parce que la seule chose qui comptait, c'était faire des conférences dans mon cercle, le cercle Charles Maurras. Quand même, nous étions arrivés à une centaine de collégiens. Le cercle Charles Maurras.
Tu m'as jamais aussi bien vendu.
Ça m'étonne pas. Pétalant, ouvre enfin les yeux.
La France ne sera pas l'esclave des Boches. Demandez ! Demandez l'Action française !
Je comprends.
Royaliste militant, Daniel Cordier. Et le 17 juin 1940, lorsque Pétain, qui est le héros de 1914, c'est donc votre héros, annonce la capitulation de la France, comment vous réagissez ?
Ah. Les discours de Pétain, ben, c'est le commencement de ma vie. Je me souviendrai toujours. Paul Reynaud est parti et le maréchal Pétain est au pouvoir et il va parler à midi et demi. Je suis allé chercher ma mère et nous étions tous les trois devant le grand poste de radio que nous avions.
À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France.
Bon, les premiers mots du discours célèbre de Pétain, ça n'intéresse pas et tout. Et tout d'un coup, au milieu...
C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi.
Et alors, dès le dernier mot de son discours, je revois ma mère qui s'est affaissée entre les bras de mon père. Et je suis monté 4 à 4 dans ma chambre, je me suis jeté sur mon lit et en sanglots. Et alors quand j'ai repris mes esprits, j'ai dit non mais c'est un vieux con, c'est pas possible, la France ne peut pas être battue.
On ne peut pas se coucher devant les Boches, et on va se battre, je te jure qu'on va se battre.
Et puis, ça allait très vite dans ma tête, Mais au fond, je disais, mais c'est ça, c'est un vieux con, il est trop vieux, il est gâteux. Et au fond, c'est nous, les jeunes, qui devons sauver la France et qui devons nous battre.
Daniel Cordier, vous êtes totalement bouleversé, mais très vite, vous décidez de vous battre et vous vous dites, voilà, c'est avec mon groupe de l'Action française, nous devons faire quelque chose.
Absolument. Je suis allé me promener un petit peu dans Pau, qui est tout petit. Et j'étais stupéfait parce que c'était le plus grand drame que la France avait vécu. Les gens buvaient les oranges et puis les gens faisaient des courses. C'était stupéfiant. Il ne se passait rien. La France était en train de mourir et à Pau, il ne se passait rien.
Daniel Cordier, à ce moment-là, De Gaulle, c'est un illustre inconnu. Et pourtant, vous allez vraiment trouver la solution à votre désir d'action, à votre désir d'en découdre. Et vous allez filer sur Londres.
Non. Moi, je n'étais pas d'accord pour aller à Londres parce que je voulais me battre et l'armée française était en Afrique. Finalement, mon beau-père a payé pour les 17 garçons le bateau belge dans lequel nous sommes montés. Et le lendemain matin, le capitaine nous a dit, eh ben, nous n'allons pas en Afrique du Nord, nous allons en Angleterre, parce que à bord, il y avait un ministre belge de je ne sais pas quoi. Le gouvernement belge se réunit à Londres, il faut que nous allions à Londres. Voilà pourquoi je suis allé là-bas. Nous sommes arrivés à Londres, et pour me calmer, j'avais un très très bon camarade avec moi qui m'a dit « Mais ne t'inquiète pas, on trouvera un bateau, on partira en Algérie. » Et puis quand l'armistice a été signé, le représentant de la France est venu pour prendre les noms de tous les Français qui étaient là en leur disant « Mais maintenant, Pétain a fait la paix, vous rentrez en France. » Et quand ça a été fini, il dit, écoutez, moi, j'ai eu beaucoup de mal à venir en Angleterre parce que je veux me battre contre les Allemands. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Et bien, il dit, mais monsieur, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de rentrer en France parce que le maréchal Pétain, qui est le grand héros français, a demandé l'armistice et la guerre est finie. Et bien, je lui dis, pour moi, elle n'est pas finie. Elle n'est pas commencée.
Tout est contre vous, mais vous, vous continuez.
Ah oui. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait?
Eh bien, justement, c'est très intéressant de se poser la question, parce qu'on se demande tous, ça, face à de tels événements, qu'est-ce que chacun de nous aurait fait?
Mais alors, je vais avoir la réponse. Deux jours après, il y a un officier très désagréable et très hostile qui est venu pour ceux qui ne rentraient pas en France. Et nous étions une cinquantaine autour de lui. Et il a dit, face au problème de la guerre, il y a trois solutions.
Vous avez trois options. Un, rentrer en France. Deux, vous engager comme travailleur dans les usines anglaises. Trois, rejoindre la Légion française qui se constitue.
Parfait.
C'est-à-dire ?
La Légion.
Je vais donc prendre les noms des volontaires qui acceptent de s'engager sous les ordres du général de Gaulle.
Et puis, le 2 juillet 1940, on nous a dit, vous faites vos baluchons et on vient vous prendre ce soir pour rejoindre le général de Gaulle.
Pour rejoindre le général de Gaulle.
D'où vous venez?
De Brest. Et vous?
Le Conquet.
Concarneau. Tamalo.
Carnac.
Toi, tu viens d'où?
Saint, on est tous là.
Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé.
Nous n'étions pas très nombreux. Les Français libres, nous n'étions pas 3000. Mais le fond de la France libre, ce qui a formé l'infanterie de la France libre, ce sont les 620 collégiens qui étaient là.
Donc vous êtes tous de très jeunes engagés. Alors, comment ça se passe, Daniel Cordier, cette première rencontre avec le général de Gaulle?
Eh bien, il se trouve que le hasard, j'étais dans le groupe qui était face à l'entrée, devant la petite porte qui était découpée dans la porte immense que l'on ouvrait pour les camions, etc. Et tout d'un coup, à 9h, la porte s'est ouverte, il y a un rayon de soleil, mais c'était incroyable parce que nous étions aux lampes électriques, il n'y avait pas de fenêtre dans ce local, et je vois un très grand personnage qui se baisse parce qu'il avait son képi. Et puis il se redresse et il était immense. C'était le général de Gaulle. Et le général de Gaulle marche et le général de Gaulle nous a salués. Il a dit repos.
Mettez au repos.
Et il nous a dit, je ne vous féliciterai pas.
Je ne vous féliciterai pas d'être venu.
Vous n'avez fait que votre devoir.
Vous avez fait votre devoir. Quand la France agonise, ses enfants se doivent de la sauver. C'est-à-dire poursuivre la guerre avec nos alliés.
C'était pas possible, parce que quand même...
Il vous dit...
Je ne vous féliciterai pas d'être venu, vous n'avez fait que votre devoir. Oh. Ah non. Ah non, ça c'était pas possible. Alors il a continué, il est toujours impeccable. C'était très court, il a dit entre autres, vous voyagerez beaucoup, vous irez vous battre dans le monde entier. Ce sera dur.
Ce sera dur.
Ce sera long.
Ce sera long.
Mais à la fin, nous vaincrons.
Voilà.
Mais à la fin, nous vaincrons.
C'est une phrase comme ça.
Alors, finalement, après avoir rencontré pour la première fois le général de Gaulle, après avoir entendu ce discours qui vous a sidéré, quelle a été votre réaction?
Ah, très mauvaise. Accablé.
Dans quelle arme voulez-vous servir?
Je choisis l'infanterie.
Pourquoi?
Je veux tuer du Boche.
Votre nom est signé.
Alors finalement, dans cette jeune armée à Londres, vous choisissez l'infanterie parce que vous n'avez pas perdu votre objectif. Vous voulez vous battre, Daniel Cordier.
Oui, d'accord, mais là, petit à petit, j'étais en train de toucher la réalité.
Ah.
C'est-à-dire que pour se battre, il faut savoir tenir un fusil. Il faut d'abord marcher au pas, il faut être des soldats.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que au fil de cette formation militaire qui va durer pratiquement 2 ans, vous allez aussi beaucoup réfléchir. Parce qu'au fond, votre cœur était à Pétain, votre raison se doit de vous faire obéir à De Gaulle. Comment ça se passe dans votre tête, Daniel Cordier?
Alors, mais Pétain était un traître, parce que nous devions partir tous en Afrique du Nord. Et ça, je n'ai jamais varié, et je n'ai qu'un regret dans ma vie, c'est qu'on ne l'ait pas fusillé.
À 94 ans, vous le pensez toujours?
Ah, toujours. Toujours. C'est un traître, et il fallait le fusiller.
Écoutez-moi bien, Cordier. Ici, il n'y a que 2 camps, les patriotes et les traîtres. Oui, mon capitaine.
Voici vos papiers d'identité.
Permis de conduire, et carte d'alimentation... au nom de Charles Daguerre, journaliste, ainsi que vos numéros de code français et anglais et votre schedule.
Vous remettrez cela à Rex, le représentant du général de Gaulle en France et le chef du service action en mission. Ne vous en séparez sous aucun prétexte, il y a 2 millions de francs dedans. Je vous rappelle que votre mission est secrète. Vous ne devez en parler à personne, même pas à vos coéquipiers.
À vos ordres, mon capitaine.
Cordier, vous ne serez jamais assez prudent. Ne cherchez pas à jouer les héros, ça n'intéresse personne. Votre seul devoir est de durer. Je serai heureux de vous revoir vivant.
Vous serez parachuté en compagnie de Briand. Et vous retrouverez Schmitt à Lyon. Votre mission sera d'être le radio et le secrétaire de Georges Bidault.
Thank you.
général français à Londres qui a fait un discours incroyable.
Je vais donc prendre les noms des volontaires qui acceptent de s'engager sous les ordres du général de Gaulle.
À vos rangs ! Fixe !
Daniel Cordier ?
François Briand.
Qu'est-ce qu'un prêtre vient faire ici ?
Je vais me battre contre les Boches.
Aspirant Cordier, j'ai rendez-vous avec le colonel Passy.
La guerre clandestine que nous conduisons en métropole n'est pas celle pour laquelle vous avez été préparé. Elle se vit seule, au front 24 heures sur 24. Si vous êtes arrêté, vous serez entre les mains de la Gestapo, interrogé et torturé pour obtenir des renseignements. On vous fournira une capsule de cyanure.
Bonne chance, Cordier.
Merci, mon capitaine.
Des opérations dans la marche du monde. Après le refus de capituler avec le maréchal Pétain, la décision de rejoindre De Gaulle à Londres et la formation militaire dans les rangs de la France libre, Daniel Cordier ne pense qu'à une seule chose, aller en découdre avec les Allemands sur le sol français. Il a tout juste 20 ans.
Il y a un phénomène de la jeunesse. Quand j'étais parachuté, les premiers jours, on était enfermés, on nous cachait, il y avait des gens qui nous recevaient, et nous avions très peur. Quand je suis allé dans la rue, j'étais pour acheter le guide de Lyon, j'ai eu très très peur. Je me disais, mais comment se fait-il que je peux marcher dans la rue, que j'achète ce plan de Lyon et que je ne suis pas arrêté parce que tout le monde doit voir que je viens de Londres, je viens de l'extérieur. Bon, ça a duré une quinzaine de jours. J'avais 21 ans, j'étais très, 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 très occupé et au bout d'une quinzaine de jours, je n'avais plus peur du tout, d'où des imprudences folles. À Londres, on nous disait, quand on préparait notre mission, vous pouvez rencontrer une ou deux personnes par jour, mais pas plus, faites très attention, regardez que vous n'êtes pas suivi, mais au fond, c'est par période. C'est-à-dire que tout d'un coup, lorsque l'on arrivait devant une porte où on pensait que peut-être la gendarmerie ou la Gestapo après était derrière la porte, on ne sonnait pas et on s'enfuyait. Ça, il faut être fou parce que la Gestapo était effectivement derrière la porte. Mais ça, c'est arrivé quelquefois.
Daniel Cordier, vous partez, vous êtes parachuté le 27 juillet 1942.
Oui, c'était la deuxième fois. Parce que malheureusement, un mois auparavant, nous sommes partis la nuit, c'était allumé, tout allait très bien et tout, tout s'éteint. Et alors l'avion commence à plonger, à se redresser, à virer à droite, à virer à gauche, etc. Et là, je me suis dit, c'est quand même terrible. Je vais crever au moment où je vais aller me battre. Et puis, tout d'un coup, on est sorti de là, on a rallumé, je croyais au bon Dieu, et j'avais dit, si jamais je sors de là, j'irai à Lourdes à pied.
Vous l'avez fait ?
Non, parce que je ne croyais plus après la guerre.
Daniel Cordier, vous avez réchappé à ces tirs anti-aériens et donc vous êtes retourné pour être parachuté une deuxième fois. Est-ce que là, cette fois, vous vous êtes un peu mieux rendu compte du danger de cette mission?
Non.
Toujours pas.
Non. On était trop jeunes. Aujourd'hui, les garçons, les filles qui ont 17 ans, 18 ans, d'abord, ils sont plus grands, ce sont déjà presque des hommes, des femmes, et dans leur tête, ils sont mûrs. Nous étions des enfants.
Avec le recul, finalement, est-ce que vous avez le sentiment qu'à l'époque, vous étiez un enfant qui jouait à la guerre, qui jouait aux soldats?
Alors, on ne jouait pas, mais on était des enfants. Je ne connaissais rien du monde, j'avais été pensionnaire toute ma jeunesse, mais on était des enfants.
C'est bien passé?
Ouais, je suis content de te voir.
Moi aussi. Tu vas vite te rendre compte que tous les résistants ont un rendez-vous ici.
Il suffirait d'une descente de police pour les arrêter tous, alors.
Ah ouais. À force, on oublie le danger, on prend des risques inconsidérés. Viens, on y va, Rex nous attend.
La première personne que l'on rencontrait quand on en arrivait de Londres, c'était Rex. Parce que c'était le patron de tout le personnel qui était envoyé de Londres et qui était à ses ordres, et il pouvait faire tout ce qu'il voulait et nous renvoyer à Londres.
Donc Rex, si. Jean Moulin, est le représentant de Charles
de représentant du général de...
en France.
Voilà. C'était lui le patron. Donc on me présente au patron, on m'avait donné tout un courrier et on m'avait donné 10 millions en billets. Sous mes chemises, je donne le courrier et l'argent à Moulin. Et il était penché sur une chaise où il y avait des documents. Et quand nous sommes rentrés avec Schmitt, mon copain de Londres, qui était le représentant de Libération, Moulin a tourné la tête, il s'est levé, très souriant, il a serré la main de Schmitt, et puis il est venu vers moi. Est-ce que vous avez fait bon voyage? J'étais stupéfait,
ah oui.
Parce qu'il était très bronzé. Il paraissait très jeune, il était beau et très jeune. Je ne savais pas quoi lui répondre, parce que je ne savais pas si, même en civil, il fallait que je me mette au garde-à-vous devant lui. Ça me troublait, et j'entends tout d'un coup qu'il m'avait un dîner.
Vous êtes libre à dîner ce soir?
Oui.
Rejoignez-moi à 7h au Garé, c'est un restaurant près de l'Opéra.
Dans la formation que nous avons eue, on a dit quoi qu'il arrive. Là où vous partez, quoi que vous fassiez, ne vous interrogez pas sur ce que vous dites. Vous faites ce que l'on vous demande, vous obéissez aux ordres. Il m'avait dit, on va dîner ensemble. Bon, ça me paraissait curieux, mais enfin, personne ne m'avait rien dit, parce que la première chose, quand vous rentrez dans un service secret, tout est secret. Donc, vous ne dites rien. À personne, à votre meilleur ami, rien.
Daniel Cordier, donc vous finissez par aller à votre rendez-vous, et à 7h05, vous êtes le premier au restaurant pour ce dîner avec Rex.
J'ouvre la porte, c'était un tout petit bistrot, et il y avait une table qui était toute seule, qui était isolée, et je me suis dit, je vais me mettre là, parce que si jamais la Gestapo arrive, comme ils rentrent et ils vont tout de suite au fond, on se lèvera et on partira. Parce que ça, c'était tout ce que l'on nous avait appris. Donc je m'assieds sur la banquette et quelques minutes après, Moulin ouvre la porte.
Donc Moulin arrive.
Et il n'y avait personne dans le bistrot. On était tout seuls. Et Moulin me dit...
Bonsoir. Soyez gentil de changer de place.
Soyez gentil, asseyez-vous. Là, et je mets sur la banquette. Parce que c'est lui qui voulait voir...
Saucisse lentille, ça vous va?
Oui, très bien.
Michel?
Oui?
Deux saucisses lentilles, s'il vous plaît.
Bien, monsieur.
Vous voulez du vin?
Non, merci, je ne bois jamais de vin. Un Perrier, ce sera très bien.
Il faut jamais boire d'eau pétillante en mangeant, c'est mauvais pour l'estomac.
Pendant ce dîner, donc, ce sont vos premiers échanges avec Jean Moulin. Est-ce que déjà, à ce moment-là, il vous propose de travailler pour lui directement.
Alors non, il fait raconter ma vie.
Il y a longtemps que vous étiez à Londres ?
Je parle de l'action française, oui. Contre les juifs, etc. Enfin,
oui, parce qu'à l'époque, vous avez des idées antisémites, vous êtes pour l'action française.
Ah ouais, non. Je lui raconte pourquoi j'ai voulu venir en France pour tuer du Bosch. Le bon Bosch, il a un petit sourire. Il me regarde. Moi, je pensais que il était très sympathisant à l'action française. Parce qu'il me posait des questions, il voulait savoir sur mon rat, sur le club, sur comment ça se passait, comment on vendait les journaux et tout ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Il est des nôtres. Et il me dit, vous m'avez beaucoup intéressé avec le récit de votre jeunesse, mais ma jeunesse a été merveilleuse parce que mon père était radical socialiste et qu'il m'a donné la foi dans les radicaux. Sidéré.
Vous attendiez à tout, sauf à ça.
Mais non, sidéré, parce que je croyais qu'il était Action française, royaliste, etc. Je suis fou.
Moi aussi, j'ai une jeunesse très heureuse. La différence avec vous, c'est que j'ai eu une enfance républicaine. Mon père s'est toujours battu pour la République et contre la tyrannie.
Il me raconte son enfance, et sans jamais donner de nom. Où il était né, où il vivait, mais je savais que c'était au bord de la mer, dans le sud.
Donc Jean Moulin vous raconte son itinéraire, ah, son enfance, mais sans vous donner d'indication qui vous permettrait d'identifier, bien entendu.
Absolument. C'est un moment extraordinaire. L'abandon, la confiance, enfin, ben, évidemment, j'avais eu confiance, mais enfin, c'était mon devoir de lui dire qui il était, etc. Lui, il n'avait rien à me dire. Ça, c'est très, très curieux. Quand ça a été fini, il m'a dit, mais quand vous étiez à Londres, alors comment vous êtes rentré au Bécéran ? Et qui connaissez-vous au Bécéran ? Ben, j'ai rencontré le capitaine Passy. Je voulais lui montrer que quand même je connaissais des gens très importants qui étaient des amis. Il y a quelqu'un que j'ai bien connu à Londres, c'est en dernier que je lui dis ça, c'est Raymond Aron. Ce qui est très triste, c'est qu'il est devenu anti-gaulliste. Et il m'a dit, mais tout le monde est libre de ses opinions. Et chacun pense ce qu'il veut.
Ça, c'est extrêmement fascinant. Est-ce qu'il le pensait, ce qu'il disait ?
Oui. Et il le faisait. Il n'y a aucun doute. Heures et demie, Moulin demandait l'addition et il a dit ben, raccompagnez-moi chez moi. Nous avions traversé tout Lyon, mais en suivant le Rhône. Il s'est arrêté et il m'a dit, regardez bien le numéro où j'habite, regardez la plaque de la rue et vous viendrez demain matin à 7h, je vous garde comme secrétaire.
Venez chez moi demain matin à 7h. Je vous garde avec moi, vous serez mon secrétaire. Vous sonnerez 3 fois. Bonsoir.
Il m'a serré la main, bonsoir. Il est rentré, il a claqué la porte. J'étais hébété, parce que c'est effrayant. Il est charmant, il est très gentil et tout, mais j'ai rien à faire avec lui.
Voilà, tout vous opposez au niveau des idées.
Bon, j'ai regardé effectivement le numéro, j'ai regardé la plaque de la rue. Je suis retourné le long des quais. J'arrive, il devait être minuit et passé.
Quelle heure ? Minuit.
T'étais où ?
Avec Rex. On a parlé toute la soirée.
Alors, il est comment ?
Il est extraordinaire. On est d'accord sur rien, mais il est extraordinaire.
Et lorsque vous retrouvez votre ami Brion, avec qui vous partagez cette chambre chez ces Français qui vous hébergent, j'imagine qu'il vous demande comment ça s'est passé.
Je dis, justement, ça s'est pas bien passé. Ah bon ? Il veut que je sois son secrétaire. C'est très bien. Mais comment c'est très bien ? Je suis le secrétaire de Bip. Et il a bâillé. Il a dit, oh, t'inquiète pas. Il sait ce qu'il fait. Et puis, il s'est rendormi. Il n'est pas dormi de la nuit. Et alors, à force de réfléchir, je savais ce que je voulais lui dire.
J'ai réfléchi toute la nuit à votre proposition, que je trouve passionnante. Mais je ne peux pas accepter.
Daniel Cordier, le lendemain, lorsque vous retournez donc voir Jean Moulin, comme il vous l'avait demandé, vous imaginiez quand même exprimer votre désaccord.
Ah, tout à fait. Ah, mais c'est la raison de mon incendie. J'en avais beaucoup réfléchi. Mais j'étais décidé à lui dire que j'étais le secrétaire de Bidot et que. Enfin, de Bip. Je connaissais le nom de Bidot. C'est le seul nom, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait quelqu'un à Londres qui m'a dit « Ben, tu as de la chance, tu seras le secrétaire de Bidot. » C'était Bip. Et je sonne, toujours souriant, il me fait rentrer dans sa chambre, il me fait asseoir dans le fauteuil, et lui s'assied entre les deux fenêtres, il y avait une petite table, et il y avait les documents que j'avais apportés qui étaient là, il était en train de tout lire. Et il me dit « Ben, j'espère que vous avez bien dormi. » Ça, c'était la chambre de ma vie. Je dis, écoutez, malheureusement, non. Oh, mais il y avait du bruit. Alors, pas du tout. Mais comment ? C'est à cause de ce que vous m'avez dit hier soir. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Vous m'avez dit que vous vouliez que je sois votre secrétaire, mais Londres m'a donné une mission que je dois accomplir. Je suis le secrétaire de Georges Bidot. Je dois lui remettre tous ses papiers, tout ça.
J'ai été envoyé par le BCRA pour travailler sous les ordres de Bidot.
Vous ne voulez pas travailler avec moi ?
Ce n'est pas ça, j'aimerais beaucoup. Mais vis-à-vis du BCRA, je ne peux pas accepter, sous peine de sanction.
Ah, mais si c'est ça, j'en fais mon affaire. Je préviendrai Londres, ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous.
C'était pas du tout l'homme de la veille. Dans le ton, dans sa manière d'être, c'était le patron.
Daniel Cordier, voilà. Le premier dîner avait été un moment de presque d'intimité d'homme à homme, et dès le lendemain, c'est le patron, c'est le chef de la résistance, c'est le représentant de De Gaulle en France qui vous intime de faire votre travail.
Ah oui, d'ailleurs à partir de ce moment-là,
zéro discussion.
Je suis écrasé. Et le soir, quand je lui ai rapporté le déchiffrement des courriers, il m'a dit mais. Est-ce que vous avez choisi votre pseudo ?
Alors, vous avez choisi un pseudonyme ?
Alain.
Je peux vous demander pourquoi ?
En souvenir d'un ami qui m'a fait aimer le philosophe et ses propos sur le bonheur.
Les propos sur le bonheur d'Alain, c'est le dernier livre que j'étais en train de lire quand j'ai quitté ma chambre, où je ne suis jamais revenu, à Metcalfe. Et c'était un livre que j'ai annoté à moitié, que je possède encore. Il était ouvert, c'est ma chambre, mes parents avaient gardé ma chambre telle que.
Vous écoutez RFI, La Marche du Monde, Valérie Niblon.
Daniel Cordier, alias Alain, raconte son travail quotidien dans la résistance française aux côtés de Jean Moulin, alias Rex.
C'est vous qui serez responsable des fonds versés par Londres et qui les distribuerez au mouvement. Bien entendu, vous tiendrez une comptabilité précise. Vous devrez aussi organiser et maintenir les contacts avec les responsables des mouvements, les officiers liaisons et les opérateurs radio. La correspondance s'effectuera par l'intermédiaire des boîtes aux lettres. Il faudra que vous trouviez rapidement une boîte pour ne pas surcharger la mienne. Il vous faudra une dactylo, il vous faudra aussi un courrier, quoi d'autre ? Oui, vous toucherez 1200 francs par mois.
Moulin m'a expliqué que tous les matins, je viendrai chez lui à 7 heures, que je lui apporte tout le courrier ouvert, en classant les choses les plus urgentes, les télégraphes, les choses auxquelles il faut répondre tout de suite et tout ça, et que nous travaillerions dans sa chambre le temps nécessaire. Le début de la journée se passe comme ça. Et après, lui répond et il m'explique ce qu'est la correspondance dans la résistance. Ce sont des petits bouts de papier. On griffonne dessus, je vous attends demain à tel endroit, à telle heure. Il m'a dit, il faut absolument que vous ayez un rendez-vous de repêchage. Parce qu'il faut absolument que vous ayez le contact avec l'ensemble de la résistance que vous allez connaître. Ce sont tous les chefs, tous les états-majors, tous les dirigeants, c'est-à-dire à peu près une centaine de personnes dans la zone occupée, dans la zone libre. Mes oreilles se décollaient pendant qu'il était en train d'entendre ça.
Bon, moi je crois vous avoir tout dit. En tout cas pour commencer. Voici mon code. Prends pitié de la fille mère, du petit au bord du chemin. Vous verrez, c'est du Tristan Corbière. Et retenez ma clé. 1, 6, 4, 3, 8. Revenez ce soir pour me remettre ces documents que vous aurez déchiffrés.
À la fin de cette très longue conversation avec Jean Moulin, je lui ai dit, sur un ton un peu craintif, je lui ai dit, mais quand est-ce que vous me présentez les autres personnes de votre secrétariat ? Il m'a regardé comme si j'étais un fou. Mais mon secrétaire, c'est vous. Oui, mais les autres. Mais il m'a dit, je n'ai jamais eu de secrétaire, vous êtes le premier. Je me suis dit, il est fou, je ne sais pas.
Daniel Cordier, d'abord un grand merci de nous avoir accueillis ici à Cannes dans votre appartement, au milieu de vos objets d'art. Et j'aimerais que l'on conclue cette histoire de votre engagement aux côtés de Jean Moulin avec une phrase de Jean Moulin qui est une des dernières phrases que Jean Moulin vous a dites en vous offrant ce magnifique livre d'histoire sur l'art contemporain. Et vous êtes devenu un grand collectionneur d'art. C'est devenu votre métier, votre passion. Jean Moulin vous a dit...
Ce sont ces œuvres qui témoignent de notre culture. C'est en regardant Braque, Kandinsky, Picasso, Mondrian, Matisse et tous leurs collègues que vous pourrez comprendre votre époque. Il n'y a pas qu'en politique que la révolution change la vie des hommes.
Oui.
Il avait raison.
Bien sûr. Bien sûr. L'art a changé ma vie, mais... Le jour où Jean Moulin a été attaqué sur Antenne 2, en 1977, il y avait un livre qui était paru d'Henri Frédet sur Jean Moulin. Et c'est la première fois depuis la guerre que je me suis retrouvé avec une quinzaine de chefs, dont Frédet, qui se trouvait exactement en face de moi. Et cette réunion qui était très calme, ça a explosé. Je n'avais lu aucun de ces livres, aucun des livres des mémoires de tous les chefs, les anciens chefs de résistance et tout ça. La résistance et la France libre, pour moi, ça n'existait pas. Je n'avais pas lu les mémoires du général de Gaulle. Évidemment, quand Frédet m'a pointé du doigt et m'a dit de toutes les manières, vous ne savez rien parce que vous n'étiez que le petit secrétaire de Jean Moulin. Effectivement, je ne savais rien.
Et ça a déclenché chez vous l'envie finalement d'enquêter sur votre propre vie, Daniel Cordier.
Oui, je suis rentré déchiré par cette phrase de Frédet et je me rendais compte que la résistance avait continué sans moi. Parce qu'il n'y avait plus que des souvenirs, que des arrangements où chacun fabriquait un passé qui lui convenait, qui convenait à sa famille, qui convenait surtout à la postérité. Et Jean Moulin n'avait rien, parce que personne qui travaillait avec Jean Moulin n'avait expliqué ce qu'il avait fait, qui il était, à tout ça. Et il y avait le portrait de Moulin, que vous voyez ici, qui était sur mon bureau. C'est toujours le même. C'est sa sœur qui m'a donné cette photo. J'ai pris cette photo. Je me suis dit, mais est-ce qu'il est vraiment l'homme que je crois ? Et c'était une seconde. Maintenant, je veux savoir. Et j'ai commencé mon travail, que je continue encore aujourd'hui, avec des livres sur Jean Moulin, avec les recherches d'archives, et ainsi de suite.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Oh oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite.
Daniel Cordier a toujours agi par amour. L'amour de la patrie où se mêlent le passé, la terre et le goût de l'universel. L'amour de la liberté qui justifie de prendre tous les risques. L'amour du beau qui le conduisit à révéler tant d'artistes. L'amour de la vérité qui lui fit écrire l'histoire. Mais au fond, il fut l'éternel héros du grand roman d'apprentissage que fut son existence.
Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place.
Alors, cher Daniel, cette flamme que vous avez allumée avec vos compagnons ne s'éteindra pas. Et elle continuera à en inspirer bien d'autres. Adieu, Caracalla. Merci.
Merci beaucoup.
En tout cas, vous supprimez tout ce que vous voulez.
Merci beaucoup.
Tout ce qui ne vous intéresse pas, c'est-à-dire presque tout.